Donc finalement, on peut dire, Marc, que tu viens d'arriver là-bas, quoi. Tu commences à t'installer. Donc c'est un départ qui a débuté en fin mai, c'est ça? Vers le 20 mai. Et donc, on peut dire que jusque-là, c'était l'installation, quoi. Puisque le conteneur n'était pas arrivé. Et les choses se sont mises en place. T'as Internet maintenant? Toujours pas. Donc il y a des démarrages qui sont parfois longs, n'est-ce pas? On commence et on pense que c'est fait le jour même. Parce qu'on arrive quelque part, on pense qu'on est installé, ça y est. Or, finalement, on s'aperçoit que 3 mois après, on en est encore au stade de l'installation. Alors, ça permet de faire le lien avec la prédication d'aujourd'hui. La fois dernière, vous vous rappelez peut-être, j'avais posé une question: qui es-tu? Évidemment, la réponse se faisait dans la perspective de qui est Jésus. Jésus étant l'œuvre de Dieu sur terre, l'outil de Dieu, le bras de Dieu. Dans cette même perspective, il y a une autre question qui se pose, c'est où vas-tu? Et le dimanche matin, peut-être vous en apercevez comme moi, il y a beaucoup de gens qui courent partout. Ils courent dans tous les sens. Chaque fois que vous regardez sur un trottoir, il y en a un autre ou une autre, en short, en train de courir. Et des fois, j'ai envie de m'arrêter, je dis, mais où cours-tu? Peut-être qu'il va dans une église en courant. Et parfois, on rencontre certains des nôtres sur le trottoir, en marchant vite. Et je sais où ils vont. Et où cours-tu? Nos voisins, le dimanche matin, peut-être que vous les imaginez comme ça. Moi, j'aime imaginer des choses. Et je m'imagine mes voisins ouvrant le rideau le dimanche matin. Ah, ça y est, il part de nouveau. Mais où va-t-il? Est-ce qu'on suscite ça autour de nous? Alors peut-être qu'ils devraient savoir. Mais j'ai 5 voisins. Vous en avez peut-être juste un. Moi j'en ai 5 qui jouxtent la maison. Où va-t-il? Et moi c'est la question que j'ai envie qu'on se pose ce matin. Où allons-nous? Où vas-tu? Dans ta vie, où est-ce que tu vas? Alors pour démarrer, j'aimerais qu'on lise un petit passage qu'on connaît très très bien, qui est issu de l'entretien que Jésus a avec Nicodème. Dans Jean 3, au verset 7. Donc c'est Nicodème qui vient voir Jésus, et Jésus lui parle et lui dit une chose étrange. Il dit, en vérité, au verset 3, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette chose barbare qu'il faut faire? Naître de nouveau. Alors, sachez qu'aujourd'hui, il y a des théologiens qui disent que c'est barbare que de naître de nouveau. Les théologies libérales, par exemple, nient complètement la nouvelle naissance. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en va ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans nos milieux, on parle souvent d'expérience de la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Je prends mon avion, j'arrive, ça y est, c'est fait. Et pourtant, on voit que on peut prendre son avion, arriver, et on n'est pas vraiment arrivé. Et je crois que la nouvelle naissance est dans une certaine mesure une expérience. Mais elle est aussi un chemin. Elle est aussi une route. Et nos témoignages, si on nous prenait les uns après les autres, seraient que, ah, moi, le Seigneur m'a rencontré à ce moment-là, à cette période-là, et depuis, il se passe ceci. Et pour d'autres, c'est, moi, je suis né dans une famille chrétienne, et un jour, j'ai su que Jésus vivait en moi. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pas, peut-être que ce serait bien que vous naissiez de nouveau. Peut-être que ce serait bien que vous changiez de vie, que vous convertissiez, que vous alliez prendre une autre direction, que vous suiviez tel et tel prophète et que vous preniez de ses conseils. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vrai croyant est né de nouveau. Dans la bouche de Jésus, c'est un impératif. Il faut que dans nos cœurs, nous ayons cette certitude de la nouvelle naissance. Et le problème, c'est de vivre toute sa vie avec une illusion de nouvelle naissance. Et un autre problème, c'est lorsque des gens viennent pour interférer dans l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire pour nous rencontrer. Il y a deux choses qu'il ne faut pas dire à une personne. Tu n'es pas né de nouveau. Et une autre, tu es né de nouveau. Personne, je dis bien personne, ne peut dire à son frère ou à sa sœur, tu es né de nouveau. Personne ne peut dire, tu n'es pas né de nouveau. C'est une œuvre qui s'accomplit entre Dieu et l'homme. Et toute interférence humaine dans ce domaine peut être dramatique. L'Évangile, c'est Jésus sur la terre qui vient pour préparer des hommes à recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus n'a jamais dit à personne sur la terre, tu es né de nouveau. Jésus a la capacité de sauver, juste de dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans mon royaume, au paradis. Et c'est fait. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un, tu es né de nouveau. Et il ne pouvait pas le dire. Sans les explications du Saint-Esprit, l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Jésus a passé sa vie sur la terre à faire différentes choses, on va le voir. Mais il a laissé à l'Esprit de Dieu le soin d'animer dans le cœur des gens les paroles qu'il avait dites et laissées sur la terre. Jésus a donné des paroles de vie qui ont commencé à prendre effet lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? La nouvelle naissance n'est possible que si nous avons rencontré Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité de naître de nouveau. Il faut avoir rencontré Jésus-Christ. On sait aujourd'hui que c'est une notion qui est discutée dans le monde et qui est reprochée aux chrétiens. Mais Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça, il faut que chacun d'entre nous en soit persuadé. « Nul ne vient au Père que par moi. » Aucune philosophie, aucun prophète, que ce soit Bouddha, que ce soit Mohammed, que ce soit n'importe lequel d'autre, ne peut vous amener au Père. Parce qu'aucun n'a fait et dit ce que Jésus-Christ a fait et dit sur la terre lorsqu'il était là. Jésus dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. » Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va, mais tu en entends le bruit. Et le bruit sur la terre, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le bruit qui annonce la venue de l'Esprit. Lorsque Jésus marchait pas loin du Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait, lorsqu'il est passé, Jean-Baptiste a dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Et là, deux personnes, deux de ses disciples, lui ont emboîté le pas et lui ont dit « Où demeures-tu ?» Et alors, il a dit « Fichez-moi la paix, j'ai autre chose à faire. » Il a dit quoi ?« Venez et voyez. » Et tout commence là pour l'homme. Jésus, où demeures-tu? Eh bien, viens et vois. Et ils sont allés voir où il demeurait. Est-ce que notre vie avec Christ a commencé de cette façon-là? Est-ce qu'il y a eu un intérêt, quelque chose qui fait que, où va-t-il ce matin? Où va mon voisin ce matin qui rentre dans sa voiture en dimanche? Mais viens, viens et vois. On entend souvent, n'est-ce pas, ces questions. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Pendant une période, ça peut poser des problèmes dans une vie chrétienne. À ces questions, Jésus répond. Jésus répond, « Venez et voyez. » Et lorsqu'on est en sa compagnie, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des choses dans nos vies qui finalement nous empêchent de marcher à ses côtés, nous empêchent d'en savoir plus sur lui. Il y a chez l'homme une forme de dépression, quelque chose qui le rend incapable de voir la vie du bon côté. Alors il va faire plein de choses, il va se trouver des occupations, il va aller à des endroits, il va dépenser de l'argent pour satisfaire ce côté insatisfait dans sa vie. Et des fois, c'est tellement fort dans nos vies qu'on est paralysé. On aimerait le suivre et on ne peut pas. On aimerait, dans notre cœur, c'est là. Et finalement, il y a une sorte de blocage qui fait qu'on n'arrive pas à se déplacer. Et là, Jésus, sur son chemin, s'arrête. Et il a un mot qu'il a dit souvent. Lève-toi. Il a dit de nombreuses fois. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que vous l'avez entendu vous dire « Lève-toi » ? Et quelle est notre réponse ? Oh mais Jésus, je ne peux pas. Je suis paralysé. J'ai une main sèche. Je suis aveugle de naissance. Je suis boiteux. Je suis grabataire. Ce sont tous des gens que Jésus a guéris. À tous, il leur a dit, « Lève-toi. » À celui qui était aveugle, je crois que c'est lui, on est venu le chercher et on lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Si vous regardez dans le langage original, vous verrez que « lève-toi », ça ne veut pas seulement dire « lève-toi physiquement ». Ça veut dire « rassemble-toi ». Ça veut dire « mets-toi en œuvre, mets-toi en route ». N'est-ce pas ? Il y a ce blocage, cette paralysie, cette position couchée où on ne peut rien faire. Et là, Jésus vient. Et il vous dit, lève-toi. Et je me lève. Sur ta parole, je me lève. Les cycles, il y a des cycles infernaux dans nos vies. Des choses qui reviennent sans arrêt, qui nous bloquent complètement, qui bloquent la relation avec Dieu. Et Jésus vient, lève-toi, rassemble tes facultés, lève-toi. Et là, si vous avez la foi dans celui qui vous parle, si vous savez que ce qu'il vous dit, c'est la vérité, vous vous levez. Sur ce chemin avec Jésus, il y a d'autres gens. Il y a d'autres difficultés. Il y a des gens qui disent, moi, je suis debout. J'ai rassemblé mes facultés. Mais j'ai beaucoup de richesses. J'ai beaucoup de choses qui m'empêchent de suivre Jésus. J'ai beaucoup d'intelligence. Et il faut d'abord que je vérifie que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut que je compare avec les philosophes. Ou alors, mais pourquoi est-ce que je suivrai Jésus puisque j'ai tout l'argent qu'il me faut, je peux acheter toute chose. Quand on a beaucoup d'argent, on peut tout acheter, sauf le billet pour le ciel. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est gratuit. Il y avait un homme qui était riche, qui a posé des questions à Jésus, qui avait beaucoup d'intérêt pour Jésus. Et il a dit, Jésus l'aima. Au moment où il lui a dit, vends tout ce que tu as Donne-le aux pauvres et suis-moi. L'homme est parti, dépité. Il dit, tout, j'étais prêt à tout faire pour Jésus, mais j'étais pas prêt à me débarrasser de mes richesses. Pourtant Jésus lui avait dit, suis-moi. Cet homme avait de l'intérêt pour Jésus. Il lui avait dit, suis-moi. Et je pense que je l'ai déjà dit. Si on regarde bien, Jésus a dit, suis-moi uniquement à ceux dont il voulait faire ses disciples. D'autres ont du mal à suivre Jésus parce qu'ils lui disent, attends, il faut que j'aille enterrer mon père qui vient de mourir. Il y a des choses dans nos vies qui nous encombrent. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. N'est-ce pas? Nous avons besoin, lorsque nous sommes sur cette route avec Jésus, non seulement de rassembler nos facultés et de nous lever sur son ordre, mais aussi, lorsque nous avons de l'intérêt pour Jésus, de laisser ce qui nous encombre, les liens qui font qu'on ne peut pas avancer, les laisser tomber et répondre à cette demande de Jésus, « Suis-moi, oui je viens. Seigneur, je laisse derrière moi toutes ces choses et je te suis parce que c'est la vie qui m'intéresse. » Suis-moi textuellement, c'est accompagne-moi ou viens joindre mon parti. Viens dans mon parti, viens avec moi dans mon royaume. Est-ce que vous êtes dans le parti du royaume de Dieu? Dans l'équipe du royaume de Dieu? Je sais, l'Église n'est pas une équipe de foot, c'est pas un club. Mais c'est quand même ce dont il est question là. Il y a, sur le chemin de Jésus, pendant que nous marchons avec Jésus, il faut savoir que nous sommes partis d'un des lieux les plus bas d'Israël, proche du Jourdain. Jésus a beaucoup marché dans le désert de Judée, pas loin de Jean-Baptiste aussi. Et donc vous savez, je vous l'ai déjà dit aussi, que la mer Morte est à moins 400 mètres d'altitude. Donc Jésus est parti d'un endroit qui était très bas en Israël. Et tout son parcours, son chemin, l'amène vers un des endroits élevés d'Israël, qui est Jérusalem, et après Jérusalem, le mont des Oliviers. Dans ce parcours, ils arrivent au bord du lac de Galilée. Et là, ils sont pressés par la foule. Et Jésus leur dit, allons de l'autre bord. Allons là-bas, de l'autre côté. Et lorsque vous avez passé quelques jours au bord du lac de Galilée, vous savez exactement où ils sont allés. Et vous voyez l'autre rive, en face, dont il est question, où il y a des falaises qui se jettent dans la mer de Galilée. Il dit, allons là-bas. On va lire dans Marc 4. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je saute le passage là, qui est donc la tempête. Et au chapitre 5, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu ! Ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le prit instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Quelle rencontre ! Mais qu'est-ce qui est passé par la tête à Jésus d'aller là-bas ? Je vous assure qu'autour du lac de Galilée, il y a d'autres endroits où on peut aller qui sont beaucoup plus sympathiques. Non seulement ils doivent essuyer une tempête, mais en plus de ça, ils tombent sur l'homme le plus fou du coin. Mais quelle idée ! Quelle idée ! Il était dans un endroit où on avait décidé que les fous alliés comme lui, qu'on ne pouvait pas lier d'ailleurs, on les mettait là-bas dans un sépulcre, là-bas où ils ne nous embêteraient pas. Ils avaient peut-être leurs médicaments de l'époque, et on se gardait de le côtoyer parce que de toute façon il était dangereux. Et on faisait du commerce de pourceaux. À côté de ça, vous savez ce que Jésus a fait lorsqu'il a délivré cet homme. Il a envoyé les démons dans le troupeau de pourceaux. Et pour ça, Jésus a été très mal accueilli. N'est-ce pas, dans un lieu où les relations commerce, où le commerce fonctionne bien, il est important que toutes choses soient bien à leur place. Les fous bien rangés, les pourceaux qui rapportent de l'argent de l'autre côté. Cet homme, pour ceux qui étaient là-bas, n'avait pas plus de valeur que les pourceaux. Il en avait moins. Et c'est ce qu'ils n'ont pas supporté. C'est que Jésus les a remis en face de leurs responsabilités. Il leur dit, mais la place des démons, c'est dans les pourceaux. C'est pas dans cet homme. Frères et sœurs, parfois nous avons besoin d'être délivrés. Dans le chemin qu'on fait avec Jésus, il arrive que, après avoir essuyé une tempête avec lui, il nous amène de l'autre bord, dans un pays un peu sombre, dans un pays un peu lugubre, où il y a des choses étranges qui se passent, où la logique est inversée. Il y a un monde que d'une certaine manière Jésus veut nous montrer, là à l'intérieur. Et il nous fait voir que les choses ne sont pas à leur place. Et qu'il est nécessaire qu'il vienne pour remettre les choses dans l'ordre. C'est pour ça que Jésus les a emmenés de l'autre bord. Passer une frontière, toucher à des choses qu'on n'imaginait peut-être pas. Jésus nous propose, dans le chemin qui nous amène au Saint-Esprit, de toucher ce qui est illogique dans nos vies, ce qui est incontrôlable, ce qui ne marche pas droit. Et il le fait avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Les puissances démoniaques connaissent Jésus parfaitement, on le voit. Ne me tourmente pas. C'est une prière à laquelle Jésus ne répond pas. Il agit. Il veut nous amener parfois de l'autre bord et nous délivrer de tout ce qui à l'intérieur ne fonctionne pas normalement. Lorsque nous avançons avec Jésus, il y a un autre endroit, un endroit merveilleux où il va nous emmener. On va prendre le récit dans Marc 9. Verset 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour d'eux, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. C'est un autre endroit où Jésus veut nous emmener. Sur une montagne. Sur une montagne où il nous fait voir, fait toucher du doigt, la gloire à venir. Une montagne où tout se transforme, où tout se métamorphose, c'est ça le terme exact. Jésus lui-même se transforme. Moïse avait connu ça dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est deux mêmes événements ou est-ce que ce sont deux événements séparés? Moïse avait connu ça. Et il emmène avec lui ses amis, ses disciples. Est-ce que Jésus vous a emmené sur la montagne de la transfiguration? Pour entendre des choses merveilleuses, pour toucher du doigt des choses inquiétantes un peu, parce que ça nous est étranger. Est-ce qu'il vous a donné ce sentiment d'être pur? Parce qu'il se passe quelque chose. Vous me direz, oui, c'est une expérience. Il ne faut pas chercher les expériences. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez recherché l'expérience. Mais est-ce que Dieu, est-ce que le Seigneur Jésus vous a donné l'occasion d'être sur la montagne de la transfiguration, là où tout est tellement différent. Une sorte de digression dans le chemin, une sorte de... Vous savez, comme sur les autoroutes, c'est toujours tout droit. Et puis, à un moment, on peut s'arrêter, on peut passer, on peut sortir. Et alors, des fois, c'est tellement bien arrangé que on a l'impression qu'on est dans un parc, que c'est ailleurs. Mais évidemment, la montagne de la Transfiguration, c'est beaucoup mieux qu'une sortie d'autoroute. C'est un endroit irréel, qui existe, mais qui n'existe pas, qui existe pour un temps. Quelque chose qui est de l'ordre d'un cadeau que Jésus nous fait, une grâce, un don, parce qu'il nous aime. Quelque chose qui nous arrache à notre quotidien, qui nous fait oublier complètement les difficultés de la vie quotidienne. Un endroit où on a un aperçu de la gloire éternelle. Quelque chose qui marque notre intelligence pour toute notre vie. Qui marque notre mentalité pour toute notre vie. Je crois que le Seigneur nous accorde parfois ces choses. Et en cela, en faisant cela, il scelle, il donne des certitudes quant à son existence, quant à la réalité de sa présence, quant au fait qu'il nous aime, qu'il veut que nous allions plus loin. Et c'est là qu'ils vont plus loin. Parce que le dernier endroit où Jésus les amène, c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem, dans la ville, premièrement. À ce stade, les disciples sont convaincus. C'est lui. Et nous le suivrons jusqu'au bout. Même quand Jésus leur disait qu'ils allaient être séparés, qu'il allait mourir, l'apôtre Pierre disait, non Seigneur, moi je te suivrai jusqu'au bout. Ils étaient tellement sûrs que c'était lui, qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils allaient pouvoir être séparés de lui. Pourtant, la montagne sur laquelle est située Jérusalem est haute, parce qu'on part de très bas, et il faut monter longuement. Lorsque Jésus dit « Allons, montons à Jérusalem », c'était pas juste une figure de style, montons à Jérusalem, c'était montons, ça fait je sais pas combien, une dizaine de kilomètres je pense de monter, et ça monte, et ça monte, et ça monte. On arrive à peu près 750 mètres d'altitude. Montons à Jérusalem. Mais jusque-là ça allait. Jusque-là ça allait. Mais quand Jésus a commencé à être pris, alors ça n'allait plus. Tous sont partis. Pierre a tenu jusqu'où il pouvait tenir. Mais ça n'allait plus. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas s'ils étaient présents avec Nicodème, ils se sont rappelés des paroles que disait Jésus. Il y a deux royaumes, n'est-ce pas ? Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Et ils étaient encore les pieds sur terre, vivant pleinement la vie de la chair. Et là, cette vie a montré son incapacité à aller jusqu'au bout avec Jésus. N'est-ce pas, dans nos vies, on peut aller jusque-là, jusqu'à ce point où Jésus est près de se faire crucifier, on monte à Jérusalem, on redescend un petit peu, on passe la vallée du Cédron, et on remonte un tout petit peu, et on arrive dans le jardin de Gethsémané. Et là, Jésus est à l'agonie, et nous on dort. Mais c'est pas anormal, parce que Jésus savait qu'ils n'étaient pas en mesure de veiller avec lui. Mais jusqu'au bout, il leur a montré que la vie qu'ils vivaient là était incapable de faire ce que lui était en train d'accomplir. La vie de la chair ne pouvait pas leur permettre de veiller avec lui. Et il y avait ensuite une autre montagne qu'il fallait gravir, c'est après le jardin de Gethsémané, il faut aller un peu plus haut, sur le mont des Oliviers. Et là, c'était impossible qu'aucun homme n'y aille. Parce qu'il fallait que Jésus aille tout seul là-haut. Il a amené ses disciples jusqu'à l'endroit, jusqu'au pied de la croix. Jusque là où il savait qu'il pouvait les emmener. Et ensuite, il a lui été élevé. Il a lui été élevé. Il est passé dans la mort. Il est ressorti sans encombre. Il est allé vers le Père et il a envoyé l'Esprit de Dieu pour que les hommes et les femmes puissent continuer leur chemin avec lui. Lui en eux. Il faut naître de nouveau. Jésus va vous amener, nous amène, jusqu'au pied de la croix. On peut voir des choses merveilleuses pendant cette période-là. Mais il n'y a que vous, individuellement, qui sachiez si vous allez plus loin. Judas a trahi Jésus avant le Saint-Esprit, pas après. N'est-ce pas ? Tout ce qui nous sommes ici tous parce que nous avons un intérêt pour Jésus, ça c'est sûr. Mais est-ce que nous voulons aller ? Est-ce que nous pouvons aller plus loin ? Je suis convaincu que si après toutes ces années, nous sommes là ensemble, le Seigneur va nous amener plus loin. C'est une promesse. Le Saint-Esprit vient. Je ne parle pas de deux expériences, je ne parle pas de... N'est-ce pas ? Vous comprenez bien. Il y a que le départ est un jour donné. Le Seigneur nous amène. Et invariablement, si nous en sommes là, si nous avons fait ce chemin, nous serons bénis de l'Esprit de Dieu. Invariablement. Je vais prier. Seigneur, quand nous avons un regard aiguisé sur notre vie, nous pouvons parfois nous prendre à nous inquiéter, à ne pas savoir, à ne plus savoir, à ne plus comprendre. Mais Seigneur, il y a des passages par lesquels nous devons passer. Il y a des moments que nous devons connaître. Parce que Seigneur, tu veux sceller en nous la certitude que tu es le Fils de Dieu. Que tu es celui qui a été envoyé par le Père. Afin, Seigneur, de donner à l'homme la capacité du salut. Seigneur, je te remercie pour tout le chemin parcouru pour chacun d'entre nous. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir bénis comme tu nous as bénis jusqu'à aujourd'hui. Et Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce mont des oliviers, sur lequel la croix a été dressée, cette croix sur laquelle tu es monté, Seigneur. Seigneur, où tu as pris notre fardeau. Tu as pris, Seigneur, notre péché. Tu nous as lavés par ton sang. Et Seigneur, tu nous as rendus capables de devenir enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui coule du trône de Dieu. Seigneur, tu nous as laissé ce Consolateur. Tu nous as laissé celui, Seigneur, qui nous parle de toi, et qui remet, Seigneur, dans notre esprit les paroles que tu nous as dites sur le chemin. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Ô Dieu, notre cœur brûle, Seigneur, des paroles que tu dis dans notre oreille. Et Seigneur, nous voulons recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur, être remplis de cet esprit, Seigneur, qui nous explique les mystères de Dieu. Seigneur, glorifie ton nom dans cette église. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Viens, Seigneur, viens par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen.